Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est... Parce que j'entends le ventilateur et ça fait vibrer quelque chose. Alors, je ne porte pas d'appareil, hein, donc c'est pas ça, donc ça, mais ça fait vibrer. Donc, j'ai un choix à faire. Est-ce que je vibre ou est-ce que je dégouline? Je crois que je vais laisser pour l'instant. Ce matin, est-ce que vous avez remarqué que on trouve toute une diversité dans la Bible, une variété de méthodes qui nous enseignent? C'est-à-dire, il y a le discours, les discours de Jésus, il y a l'enseignement de l'apôtre Paul et les autres apôtres. Il y a des discours, hein, il y a des choses, je crois que ça s'appelle les cours, un cours magistral, c'est ça? Un cours magistral, c'est quand la personne parle, l'instructeur parle et vous écoutez, et vous prenez des notes. Il y a des discours, et ça, c'est inévitable. Nous allons tomber dans la Bible, dans le Nouveau Testament, sur les discours, et c'est riche en enseignements. C'est ça ce qui nourrit notre foi et qui nous calme et qui nous encourage dans notre relation avec le Seigneur. Il y a aussi dans la Bible le récit historique, c'est-à-dire qu'on va écouter Jésus, mais aussi on va l'accompagner dans ses déplacements et on va être témoin en quelque sorte, on va le regarder guérir. Il va accomplir des miracles. Nous serons là, n'est-ce pas, quand il va ressusciter Lazare. Hein? Sors de là, Lazare. Et nous serons là quand l'homme qui est mort depuis quelques jours revient. Il va revenir à la vie et puis il va sortir de son tombeau. Nous serons là quand le jeune garçon, le petit garçon, partage son repas de midi avec les disciples, avec Jésus, et c'est Jésus qui va prendre, il va rendre grâce, et puis il va commencer à rompre ses pains. Il y avait combien de pains? Il y avait 5 pains. Oui. Donc, il y avait juste assez, n'est-ce pas? 5 pains pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Non, c'est Jésus qui va accomplir un miracle. Elle va enseigner à une petite classe d'enfants. Elle a raconté cette histoire, la multiplication des pains. Et la semaine d'après, elle a fait une révision. Donc, elle a demandé aux enfants, qu'est-ce qu'il y avait dans le repas du petit garçon? Et l'un des enfants a répondu, il y avait 5 pains et 2 croissants. Parce que bien sûr, on ne met pas de poisson dans un repas de midi, n'est-ce pas? Non, il y avait 2 poissons, juste assez. 2 poissons, oh, ça suffisait largement, n'est-ce pas, pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Non, nous assistons à un miracle et nous pouvons multiplier les miracles, enfin, le souvenir des miracles que Jésus a accomplis, et pas uniquement lui, mais les apôtres après lui. Donc, il y avait les discours. Une bonne partie de la Bible, du Nouveau Testament, consiste en des discours. Et puis, il y avait des récits historiques. Et ça, on se balade. Hein? Jésus nous emmène avec lui en randonnée. Tantôt, on va monter dans la barque pour traverser la mer de Galilée. Tantôt, on va grimper en haut de la montagne, hein? Randonnée en haute montagne. Il sera transfiguré devant nous. Il va laisser apercevoir juste une petite partie de sa gloire. Sa gloire va jaillir, n'est-ce pas, à travers ce voile, le voile humain qu'il portait. Et Pierre, Jean et Jacques seront là, privilégiés, mais nous aussi, à travers le récit, nous serons là pour témoigner de la gloire de Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Donc, ça nous interpelle aussi, n'est-ce pas, les récits historiques, et on sera là, on va noter les détails, et on va encaisser ça dans notre mémoire pour retirer plus tard les choses qui sont utiles pour notre vie de tous les jours. Ce que je retiens, un des récits historiques que j'aime le plus, c'est quand Jésus rencontre cet homme atteint de la lèpre. Et cet homme s'approche de Jésus. Sans doute, plus cet homme s'approche de Jésus, plus les autres s'éloignent de Jésus. Parce que personne ne veut attraper la lèpre. C'était contagieux. Et même les lépreux devaient s'annoncer. Ils étaient obligés par la loi de s'annoncer impurs, impurs. Ils mettaient la main sur la bouche pour prévenir les autres. Et l'homme avait entendu parler de Jésus. Il savait de quoi était capable Jésus. « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus dit, « Je le veux. » Jésus aurait pu guérir à distance. Il a montré bien avant et bien après, c'était une simple parole de Jésus qui était efficace. Mais vous avez vu ce que Jésus a fait dans ce cas-là. J'oublie exactement le chapitre et le verset, mais la Bible dit que Jésus a mis la main sur cet homme. Ça devait faire des années, des années, des années depuis que l'homme est tombé malade. Que personne ne l'avait pas touché, il n'avait pas eu le contact humain. Et combien il devait se sentir rejeté, sale, hein? et à l'écart de tout, hein? À l'écart de sa famille, à l'écart de la société, à l'écart de tout, mais pas à l'écart de Jésus. Et Jésus a mis sa main sur ça. Je le veux, sois pur, sois pur. Et ça me montre la tendresse de Jésus et sa compréhension de ce que nous ressentons. Et que Jésus est plus fort que la maladie. Il est Jésus et plus fort que ce qui nous rend sales et repoussant aux yeux des autres. Jésus nous purifie, il nous accepte. Et vous allez tirer des leçons dans chaque récit historique, hein, quand Jésus guérit, quand Jésus accomplit les miracles. Mais il y a une troisième méthode d'enseignement dans la Bible, et c'est quand la Bible attire notre attention, la Bible focalise notre attention sur une personne, un personnage. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours une biographie. Souvent, en suivant ce que la Bible nous dit au sujet d'une personne, ça nous laisse avec plus de questions. On aurait aimé savoir peut-être plus quel âge la personne avait. Est-ce qu'il était blond, châtain ou autre? À quelle hauteur et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? La Bible ne dévoile pas une biographie, mais la Bible nous oblige à nous concentrer sur les détails qui sont révélés pour en tirer des leçons pour notre vie. Et moi, je vous propose donc une petite étude ce matin sur un personnage. Ce n'est pas pour nous distraire de la table, ce n'est pas pour nous obliger à détourner les yeux de Jésus, ce n'est pas ça. Mais la Bible met en avant des personnes, hommes et femmes, qui servent d'exemple dans la Bible. Et autant la Bible aurait pu dresser une liste de qualités qu'il fallait avoir, une liste de responsabilités qu'il fallait prendre, des choix qu'il fallait faire. La Bible aurait pu faire cela, et pourtant la Bible dit, regardez tel ou tel. Monsieur tel ou tel, madame tel ou tel, regardez eux, ce sont vos exemples. Et je crois que j'en ai trouvé un, parce que nous allons faire la connaissance de ce personnage, vous allez vite comprendre de qui je parle. Mais si vous voulez bien, on fait la connaissance de ce personnage dans Actes chapitre 4 au verset 36. Actes chapitre 4 au verset 36. Et en fait, la Bible va nous obliger à suivre cet homme jusque dans le chapitre 15. Donc, depuis les actes 4 jusqu'aux actes 15, nous allons accompagner cet homme et il va nous servir d'exemple. Alors, il faut admettre que parfois l'exemple est négatif. C'est un contre-exemple. Hein? Ne faites pas comme lui, ne faites pas comme elle. Mais pour la plupart, à mon avis, donc nous avons un exemple positif à trouver dans ce personnage. Donc les Actes, chapitre 4, au verset 36. Alors, si je vous avais dit que nous allons étudier la vie de Joseph, vous n'auriez pas su de qui je parlais, parce que vous le connaissez par un autre nom. Hein? On le rencontre au verset 36. Vous y êtes? Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, la première chose que nous apprenons au sujet de Joseph, c'est que personne ne l'appelait Joseph. Et je ne sais pas si vous avez un surnom, un prénom qui n'est jamais utilisé, mais vous passez par un surnom. Ce serait bien, n'est-ce pas, que peut-être on va attendre le retour du pasteur Bixby, mais on va demander au pasteur Bixby de vous coller un surnom. Il va vous coller un surnom et donc il m'écoute, hein, parce qu'il écoute ses enregistrements. Donc d'ici là, monsieur Bixby, vous allez réfléchir à tout le monde dans votre église et vous allez donner à tout le monde un surnom. Tout comme les apôtres ont donné un surnom à Joseph. Et quand les apôtres pensaient à Joseph, quand les apôtres scrutaient la vie de Joseph, ils ont dit, ah, il y a un seul nom qui convient. C'est un fils de consolation, c'est Barnabas. Barnabas veut dire fils de consolation. Le mot consolation est le même mot d'où vient le mot consolateur dans Jean chapitre 14 et 15 et 16. Notre grand consolateur, cet autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit que Jésus avait promis dans la chambre haute. Quelque part dans la vie de Joseph, les apôtres ont vu les œuvres, l'action du Saint-Esprit dans la vie de cet homme. Cet homme reflétait le Saint-Esprit dans sa vie. C'était un fils de consolation. Alors, je ne sais pas ce que M. Bixby va trouver dans votre caractère ou dans votre façon de parler, votre façon d'agir, votre façon de vous présenter. Mais ici, les apôtres ont trouvé que Joseph rappelait le Saint-Esprit. Voilà. C'est comment le Saint-Esprit parlerait. C'est comme ça que le Saint-Esprit agirait. Et Joseph, donc, porte désormais, on le connaît par ce nom-là, hein, Barnabas. Alors, il vient de Chypre, originaire de Chypre. Nous ne savons pas combien de temps il est à Jérusalem. Peut-être, c'est juste une hypothèse, on ne peut pas être catégorique, peut-être il faisait partie de cette foule de personnes qui étaient venues à l'époque de la Pentecôte. Les Juifs ont été censés se présenter devant Dieu pendant, trois fois dans l'année. Dieu demandait aux Juifs pratiquants de se rendre à Jérusalem trois fois dans l'année, à la Pâque, à la Pentecôte, et puis plus tard, dans l'automne, à la fête des Tabernacles. Et donc, pour se présenter, et pour adorer et pour participer à la vie, à la vie religieuse de la nation. Et ça se peut que Joseph, avait laissé sa place en Chypre pour se présenter devant Dieu. Il était lévite, donc il avait déjà une connaissance de l'Ancien Testament. Hein. La loi de Moïse n'était pas inconnue. Il était bien placé pour avoir étudié, même peut-être il a servi sur l'île de Chypre, il a servi en tant que lévite. Les lévites étaient un peu comme, c'était aux lévites d'apporter la parole de Dieu aux gens, c'était aux lévites d'accompagner les gens dans leur maladie, de constater quand une maladie de la peau, par exemple, était maligne. C'est pas le mot maligne, si, malin. Était quelque chose comme une lèpre ou pas une lèpre. Une lèpre, maintenant j'oublie le mot, mais ça montre que je ne suis pas lévite. Mais le livre de la Lévitique a été adressé aux lévites, comment ils devaient se comporter, comment ils pouvaient servir Dieu. Donc Joseph, Barnabas étaient lévites. Et peut-être sans être catégorique, il a entendu parler de Jésus-Christ dans les paroles de l'apôtre Pierre, quand Pierre a pris la parole pour annoncer à la Pentecôte que ce que les gens entendaient, ce que les gens voyaient, c'était l'accomplissement des promesses de Dieu envers Israël, et que Dieu accomplissait sa parole, que Dieu avait envoyé un sauveur, et que ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. Peut-être Joseph se trouvait dans la foule quelque temps après, cette foule de 2000 personnes, dans le chapitre, dans le chapitre 3. C'est-à-dire qu'on ne peut pas situer sa conversion. Et à un moment donné, il est juif, lévite, pratiquant de l'île de Chypre, et tout d'un coup, il est croyant, converti à Jésus-Christ, et tellement animé par le Saint-Esprit que les apôtres l'appellent fils de consolation. Et ce qu'il va faire au verset 37 nous sert d'exemple. Vous allez dire, pas pour moi, mais je vais m'expliquer. Mais voilà cet homme, originaire de Chypre, a vendu un champ qu'il possédait. Il a apporté l'argent, il a déposé aux pieds des apôtres. Ce n'est pas le fait qu'il a vendu un champ et qu'il a déposé l'argent aux pieds des apôtres qui nous servent d'exemple. C'est le fait qu'il voulait faire vivre son Église. Tout d'un coup, il faisait partie de l'Église à Jérusalem. Tout d'un coup, il n'était pas identifié comme un lévite ou comme originaire de Chypre. Il faisait partie du corps de Christ. Il était sauvé par la foi en Jésus-Christ. Il était baptisé dans le corps de Christ. Et il s'identifiait avec l'Église. Et il voulait faire vivre son Église. Et sa façon de faire vivre cette Église était qu'il a vendu un champ qu'il possédait, il a apporté l'argent, il l'a déposé aux pieds des apôtres. Alors, peut-être que vous avez un champ, quelque part. Mais vous n'êtes pas obligé de la vendre, de le vendre. Vous n'êtes pas obligé de vous séparer de quoi que ce soit. Je crois qu'Ulysses a été, ce qu'il a lu était bien clair. Nous ne sommes pas sous contrainte. Il n'y a pas d'obligation. Et ce que nous voyons ici, c'est un homme qui aimait le Seigneur et par amour pour le Seigneur, spontanément, avec la joie et l'amour dans son cœur, il a vu qu'il avait quelque chose à la portée de main qu'il pouvait utiliser pour faire avancer l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Et donc, c'est un peu ça. Il nous interpelle, Joseph, Barnabas. Il nous interpelle. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Seigneur, tu ne m'as pas donné un champ. Non. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Maintenant, c'est le moment de prendre l'inventaire, de faire l'inventaire dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu m'a accordé? Qu'est-ce que Dieu m'a apporté? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et comment est-ce que je peux mettre ça à la portée de l'Église, à la portée de l'œuvre du Seigneur? Et ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être dans tout autre domaine. Mais qu'est-ce que vous avez que vous gardez pour vous-même et que vraiment Dieu vous l'a donné, Dieu vous l'avait donné pour que vous partagiez ça avec l'Église. Alors c'est ça, hein? c'est un devoir que je vous lance. Et de toute façon, avant de quitter le verset 37, merci, avant de quitter le 37, non, on ne va pas mettre les deux, hein? Sinon, non, merci. Hein? Vous allez supporter les petites gouttes, hein, c'est tout. Merci quand même. Mais ce que vous allez faire, c'est de faire un inventaire de votre vie. Peut-être vous allez dire, ben, j'ai rien, j'ai rien à partager, j'ai rien. Alors, c'est le moment de parler autour de vous, hein, avec des personnes en qui vous avez confiance. Et il faut leur demander, d'accord, vous me donnez quel surnom? Fils de consolation, fille de consolation, mais il y a d'autres surnoms, n'est-ce pas? Je sers à quoi? Je suis bon à quoi? Je suis bonne à quoi? Et peut-être entre nous, hein, peut-être ce sont les autres personnes qui ont une meilleure idée à quoi vous servez au sein de l'Église. Vous savez, parfois on est trop modeste. Et c'est une fausse modestie. On dit, je suis nul, je ne sers à rien. C'est une fausse modestie. La Bible dit que Dieu a accordé un don spirituel et une capacité, une fonction à chacun de ses enfants. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous avez une utilité à partager autour. C'est aussi simple que ça, c'est par la foi. Maintenant, à nous de découvrir ce que c'est, en quoi ça consiste. Et parfois, on est trop sûr de nous-mêmes. Et nous avons une idée à quoi on sert, et c'est une fausse idée. Et il faut rester modeste. Ceux qui sont trop sûrs, il faut revenir à la modestie. Ceux qui sont trop modestes, il faut prendre un peu d'assurance en soi. Mais c'est entre nous, c'est dans la famille de Dieu qu'on peut découvrir à quoi on sert et comment on peut être utile. Est-ce que c'est en prenant la parole? Est-ce qu'en prenant la parole, on fait savoir notre don spirituel? Est-ce que c'est dans l'enseignement? Est-ce que c'est dans la prière? Vous avez prié à haute voix. Je me souviens de Thomas qui venait du Tchad. Il était avec nous à Reims pendant 8 ans, pendant qu'il faisait son doctorat. Ah, j'étais triste quand il est parti, parce que chaque fois que Thomas a prié à haute voix, il disait exactement ce qui était dans mon cœur. Mais moi, je ne trouvais pas les paroles. Je ne trouvais pas les phrases. Et Thomas, c'était comme une facilité pour lui de s'adresser à Dieu comme à son père. Et il priait comme ça. Et puis, je crois que je vous ai déjà dit, ne comptez pas sur moi pour diriger la chorale ou pour chanter devant vous. Mais sans doute, vous avez des voix, vous les autres, si Dieu vous a accordé un don, un talent. C'est le moment de mettre ça à la portée des autres. Et je remercie Dieu pour vous tous, parce que je sais que en vous voyant, Dieu vous a accordé quelque chose à chacun d'entre vous. Et je remercie Dieu pour chacun. Et ma prière, c'est que pour faire vivre une église, il faut que tout le monde participe quelque part. Il faut le faire. Et voilà ce que Barnabas a fait. Donc, il avait un champ, il a vendu et il a déposé aux pieds des apôtres cet argent. Donc, je sais la meilleure façon d'accueillir la famille Bixby quand ils seront de retour. Hein? Vous allez venir et vous allez les embrasser et puis vous allez déposer à leurs pieds de l'argent. C'est pas pour eux, hein? C'est pas pour eux, mais c'est pour faire vivre cette église qui est la vôtre. La prochaine fois que nous trouvons Barnabas, à propos, il y a le chapitre 5, et Barnabas n'est pas vraiment dans le chapitre 5, mais il y a quelqu'un qui donne, juste avant d'avancer, je vais juste lire le premier verset au chapitre 5. Il y avait un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme. Il vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, il a fait presque exactement comme Barnabas, avec une seule exception, n'est-ce pas? Avec un petit problème là. Il a retenu une partie du prix, sa femme le sachant, et puis il a apporté le reste. Donc, je crois qu'il y a un contraste pour faire vivre son Église. il y a ceux qui donnent, à l'exemple de Barnabas, et il y a ceux qui font semblant de donner. Il y a ceux qui font vivre leur Église, et il y a ceux qui font semblant de faire vivre leur Église. Vous voyez, nous avons un choix là, côte à côte, et je vous invite, comme la Bible, à vous mettre du côté de Barnabas, d'être authentique, réel, d'être transparent, hein, de le faire par amour. C'est Jésus qui a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. C'est par amour, il n'y a pas d'autre contrainte. Quand nous étions à Reims pendant les 24 ans, nous avons entendu parler d'une église, une église évangélique, pas très loin de nous, mais qui devait faire face à un problème de croissance. Le problème, c'est que le bâtiment était trop petit. Leur bâtiment était trop petit. Et donc, le pasteur et les responsables dans cette église ont décidé de faire du porte-à-porte au sein de leur église. Ils sont allés chez tout le monde qui assistait à leur église. Et ils ont demandé aux gens de prendre un prêt bancaire à leur nom personnel et de donner cet argent à l'église pour pouvoir bâtir un plus grand bâtiment. Mais j'aimerais vous rassurer que ce n'est pas la façon de faire que nous avons chez les baptistes. Il n'y a pas de contrainte et vous n'aurez pas de visite du pasteur ou du responsable de cette église pour vous imposer. Vous savez que dans la religion où j'étais avant de me convertir, cette religion dont le siège social est à l'ouest des États-Unis, à Salt Lake City, dans l'état de Utah, donc les membres reçoivent un avis d'impôt, quelque chose qui ressemble à un avis d'impôt chaque année. Et il s'agit de leur dîme, c'est-à-dire ils sont imposés au sein de leur église. Et pour accéder au temple qu'ils construisent, pour accéder aux privilèges qu'on ne peut avoir que dans le temple, il faut être à jour. Et le responsable des églises à Utah sont au courant de combien vous valez et ce que vous devez payer, et si vous êtes à jour. Ça n'existe pas. Dans la Bible, c'est sans contrainte, c'est avec joie, c'est spontané, et c'est avec joie, c'est simplement dans le but de faire vivre l'œuvre de Dieu. Dieu, il a tous les moyens pour faire vivre son Église. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de participer? Justement, pour pouvoir participer. Il nous demande de participer avec ce qu'il nous a mis entre les mains. Et donc voilà, vous allez décider ce que c'est et passer donc à la participation, que ce soit par l'argent ou que ce soit par d'autres moyens, mais de faire vivre son Église. Il y a une autre façon de faire vivre l'Église. On va chercher chapitre 9, verset 26. Chapitre 9, verset 26. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent entre le chapitre 4 et le chapitre 9. Il y a la persécution, n'est-ce pas? Il y a la mort d'Étienne, le martyr. Il y a la dispersion du monde à Jérusalem. Toute l'Église, tout le monde a peur, tout le monde est ciblé, tout le monde se cache, tout le monde s'en va. Et on dirait la destruction, mais ce qui arrive par la suite, c'est un mal pour un bien, parce que les personnes qui étaient chrétiens à Jérusalem, maintenant, sont éparpillées. Et partout où ils vont partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec ceux qui les entourent. Et donc, le christianisme aurait pu rester juste une petite partie du judaïsme cachée quelque part à Jérusalem. Dieu a permis cette persécution qui a fait éclater cette Église. Nous, on aurait dit, quelle catastrophe, quel malheur! Mais nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à cause de cette persécution, il y aura un plus grand nombre qui vont venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle en Jésus va se répandre un peu partout. Une personne qui va bénéficier s'appelle Saul, qui va devenir l'apôtre Paul. Il était là, il gardait les manteaux de ceux qui jetaient les pierres pour faire mourir Étienne. Et Saul était là pour écouter l'évangile, le témoignage d'Étienne. Il était là pour voir comment il a fait face à la mort. Il était là pour, finalement, il va se lancer dans une sorte de, je sais pas le mot, mais il va déclencher une telle persécution que la Bible parle que c'était féroce, que c'était, il va ravager l'Église, la Bible dit. Il va respirer la menace et le meurtre. Donc, ce n'est pas une toute petite persécution, toute petite menace, mais il va faire en sorte que les hommes et les femmes soient mis en prison et torturés. Ce n'était pas un gentil, hein, avant de venir à la connaissance de Jésus-Christ. Mais Saul va se convertir et c'est le miracle des miracles. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la grâce de Dieu est. Saul lui-même, Paul lui-même, dit que c'est inimaginable que Dieu a sauvé le pire pour montrer à quel point Dieu est plein de grâce. Mais l'apôtre Paul se considérait comme le pire. Et si Dieu pouvait sauver le pire, alors Dieu pouvait sauver n'importe qui d'autre. Alors ça doit nous encourager, n'est-ce pas? Donc, personne n'est trop méchant, personne n'est trop éloigné de Dieu pour être trop loin de Dieu. Dès qu'il s'est converti, Saul voulait se rencontrer, il voulait se trouver dans l'Église, il voulait s'approcher de l'Église. Et ça, c'est le chapitre 9 au verset 26. Vous y êtes au verset 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Quelle claque! Votre vie a changé. Vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes devenu un chrétien. Personne ne vous croit. Personne ne vous croit. Tout le monde vous fuit. Il n'y a personne pour tendre la main. Alors Barnabas, notre fils de consolation, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et la situation a été débloquée. Il s'agit d'une situation d'impasse. Et il fallait que quelqu'un vienne servir d'intermédiaire, servir de médiateur. Vous savez qu'on était devant l'impasse entre Dieu et nous. Dieu était en colère à cause de nos péchés et nous étions incapables de les payer tout seuls. Il fallait que quelqu'un intervienne. Et voilà une autre situation d'impasse. Les chrétiens, les apôtres d'un côté, qui refusaient d'accueillir l'apôtre, enfin Saul, et Saul qui était laissé seul, abandonné. Imaginez si la situation avait continué comme ça. Tous ceux dans l'Église seraient privés. Si finalement l'Église avait claqué la porte à Saul. Mais il y avait un homme qui ne voulait pas laisser les choses dans cet état-là. Et il fallait que quelqu'un comme Barnabas, le fils de consolation, il fallait que Barnabas ose venir prendre la main de Saul pour l'amener vers les autres. Il fallait oser, hein? Il était seul, il n'y avait personne avec lui. Mais il a servi de médiateur, il a servi d'intermédiaire. Je ne sais pas s'il y a des situations semblables dans cette église, des situations bloquées, peut-être entre personnes. Je ne vous connais pas assez. Peut-être il y avait un malentendu, peut-être il y avait quelque chose qui a été dit ou quelque chose qui a été mal compris. Je ne sais pas, mais peut-être ça ne. Il y a séparation, peut-être, il y a méfiance, peut-être, il y a peur, peut-être, mais c'est une impasse, c'est une situation bloquée quelque part. Et ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'un Barnabas vienne débloquer la situation. Parfois, c'est le pasteur, mais parfois, c'est le pasteur qui est impliqué. Un peu comme les apôtres qui étaient impliqués dans ce verset. Et on ne pouvait pas chercher de l'aide auprès des apôtres. Il fallait que quelqu'un de l'extérieur vienne pour débloquer la situation. Et c'était dans le respect, n'est-ce pas? C'était avec une façon de faire. Il fallait reconnaître le problème. Il fallait discerner la vérité. Il fallait oser avoir le courage. Il fallait s'exposer au rejet, tout comme l'autre était rejeté. Mais Barnabas a osé et Dieu s'est servi de lui pour débloquer la situation. Et finalement, Saul sera accueilli les bras ouverts et il se lance sur son parcours de chrétien, en quelque sorte. Alors, c'est important par rapport à l'exclu, par rapport à quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de l'Église et qui n'arrive pas à entrer dans l'Église. Il faudra, ça ne suffit pas d'ouvrir grand les portes. Il faudra aller prendre la personne par la main pour le conduire jusqu'. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parfois, il faut ce contact personnel. Il ne suffit pas de mettre les choses en ligne. Sur l'Internet, il ne suffit pas simplement de mettre les panneaux publicitaires ou les traiter dans les boîtes aux lettres. Parfois, il faut. Ce que nous avons vu à Reims, c'était le contact personnel qui a rempli notre Église. Si on posait la question, comment ça se fait que vous trouvez là? Vous vous trouvez là, comment ça se fait? Est-ce que c'était quelque chose dans la boîte aux lettres? Non, ce n'était pas quelque chose dans la boîte aux lettres. C'était un ami qui m'a invité et qui m'a accompagné et qui m'a expliqué de quoi il s'agissait. Donc, soyons des Barnabas avec ce contact personnel. Dans le chapitre 11 au verset 19, chapitre 11 au verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils ont envoyé le fils de consolation. Ils ont envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur, un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez, il y avait une nouveauté à Antioche. Jusqu'ici, l'Évangile a été annoncé simplement aux Juifs, les Juifs qui attendaient un Messie. Et c'était chose relativement facile de leur annoncer la venue de Jésus qui correspondait au Messie que Dieu a promis. Jésus accomplissait toutes les promesses, toutes les prophéties. Inutile d'attendre quelqu'un d'autre. C'est Jésus le Messie, c'est Jésus le Sauveur que Dieu a promis. Et donc, il suffit de se confier en lui. Mais quelques chrétiens osaient partager cette bonne nouvelle avec des personnes qui n'étaient pas juives. Et la surprise, c'est que d'autres personnes non juives ont accepté cette bonne nouvelle. Finalement, nous savons, c'est banal, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, Jésus était destiné pas uniquement aux Juifs, mais au monde entier. Mais c'était une nouveauté ici. Et c'était tellement nouveau, tellement une surprise, qu'il fallait que l'Église à Jérusalem et les responsables à Jérusalem envoient quelqu'un pour établir les faits. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est en fait l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de bien ce qui se passe en Antioche? Et pour savoir, hein, pour les représenter, alors l'Église a choisi. Vous avez remarqué au verset 22, n'est-ce pas? Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église. Et ils ont envoyé Barnabas jusqu'en Antioche. Les apôtres étaient là, quelques-uns étaient là et quelques-uns étaient dispersés, mais c'était les membres de l'Église qui ont pris l'initiative d'envoyer un représentant à Antioche. Et ils avaient confiance en Barnabas. Barnabas pouvait les représenter auprès de ces nouveaux chrétiens et faire un peu le pont, faire encore une fois le médiateur, n'est-ce pas? Et ici, Barnabas va se présenter, il va arriver dans cette église à Antioche, et qu'est-ce qu'il voit au verset 23? Quand il a vu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais c'était une nouveauté, parce que jusqu'ici, à Jérusalem, tout le monde était juif, converti à Jésus-Christ. Et ce qu'on trouve ici à Antioche, c'est des juifs et des non-juifs qui sont en train, des hommes et des femmes, de toutes les origines, qui sont en train d'adorer Dieu ensemble. C'est une nouveauté. C'est une surprise. Est-ce que c'est possible? Normalement, les Juifs restent à part et les non-Juifs, les païens, restent à part. Il n'y a pas trop de mélange. Mais ici, dans une seule et même église, il y a des hommes et des femmes de toutes les origines qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. Et Barnabas ne dit pas, je n'aime pas ça. Il ne prie pas comme moi j'ai l'habitude d'entendre les prières. La plupart ne savent même pas ce que c'est dans l'Ancien Testament. Ils n'ont même pas lu l'Ancien Testament. Ils ne sont pas au courant. Ils ont des pratiques. Ils mangent des choses que les bons juifs, normalement, ne peuvent pas se permettre de manger. Vous savez qu'il y avait mille et une choses à critiquer. Il y avait mille et une choses à dénoncer, peut-être dans cette église mélangée de personnes. Mais Barnabas, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Dieu a touché son cœur. Dieu a touché le cœur de celle-là, de celui-là. Et Dieu a formé un seul corps à Antioche. Des personnes anciennes juives, des personnes anciens païens, mais tous réunis ensemble pour adorer Dieu. Et il a vu la grâce de Dieu. Il va rester là un an pour les encourager, pour leur dire que ça vaut la peine de continuer. Apparemment, la tentation était de laisser tomber. Ils avaient le même problème que nous avons. Au verset 23, son message consistait à les exhorter tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Oui, parce que parfois on a tendance à lâcher prise, à s'éloigner. Et donc on a tous besoin de cette exhortation de persévérer, 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 même quand c'est difficile, même quand les gens ont un autre accent, même quand les gens ont d'autres pratiques qui vous offensent, d'éthique et des manières, parce que ça les se voir au sein de cette église. Vous aimez votre église, n'est-ce pas? Peut-être cet été, vous allez voyager et vous allez vous trouver ailleurs. Hein? Vous allez pouvoir adorer Dieu dans une autre église. Il y aura des choses que vous n'aimez pas. Il y a d'autres choses que vous aimez et que vous souhaitez que ça se passe comme ça ici. Mais moi, je vous invite à garder les yeux sur la grâce de Dieu dans tout cela. À écouter les personnes, non pas leur façon de prier, mais la façon qui... le fait qu'ils prient Dieu, le même Dieu que vous priez. Et ils adorent le Seigneur Jésus-Christ, le même Seigneur Jésus-Christ que vous adorez. Et on ne va pas lancer des cailloux ou des remarques méchantes ou critiques. Nous allons constater la grâce de Dieu à l'œuvre dans son Église. Et il va rester là. L'idée, c'est que est-ce que l'Église est en mesure de vous envoyer comme représentant? Est-ce que vous représentez cette Église tellement que tout le monde aurait confiance en vous si vous partiez? Vous pouvez parler au nom de cette Église? Vous connaissez cette Église assez bien et vous participez assez bien que vous pouvez nous représenter ailleurs et que nous, on n'aurait pas honte si vous dites un jour ailleurs, « Ah oui, je viens de l'Église baptiste de Pessac. » Et nous, on n'aurait pas honte que vous vous identifiez avec nous. C'est un peu ça, c'est-à-dire que l'Église avait confiance, l'Église à Jérusalem avait confiance en Barnabas, qui pouvait les représenter, servir le Seigneur à Antioche. Dans le chapitre 13, en fait, chapitre 13 et 14, Barnabas travaille en équipe. Dans le premier verset, il y avait dans l'église en Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, c'est le premier, hein? Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, donc quelqu'un d'imposant, hein? Et Saul. Mais Barnabas fait partie d'une équipe. Et il est même mentionné en premier. En fait, il est mentionné en premier pendant plusieurs versets. Cette église va mettre en marche le premier projet missionnaire de l'église. D'autres personnes témoignaient, d'autres personnes partageaient leur foi, d'autres personnes évangéliser, mais ici, pour la première fois, le Saint-Esprit va diriger une église à mettre à part quelques-uns de leurs membres pour un projet missionnaire. Et Barnabas va faire partie de cette équipe. Hein? Saul sera l'autre. Je n'ai pas le temps de lire, je suis frustré, hein? Vous voyez ma frustration, mais regardez le verset 4. Barnabas et Saul. Regardez à la fin du verset 7. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Regardez au verset 9. Alors, est-ce que j'ai raté un verset? Oh oui, je voulais montrer aussi chapitre 12, verset 25. Chapitre 12, verset 25. Barnabas et Saul. Après s'être acquittés de leur message. Dans ces versets, jusqu'au verset 9, Barnabas est toujours nommé en premier. C'est le chef. Il occupe la place du chef. Et Saul vient ensuite. Mais à partir du verset 9, Saul, appelé aussi Paul, et puis au verset 13, Paul et ses compagnons, et au verset 16, Paul se leva et au verset 43, Paul et Barnabas, vous voyez ça au milieu du verset 43, Paul et Barnabas, au verset 46, Paul et Barnabas, au verset 50, Paul et Barnabas, au verset 51, Paul et Barnabas. 14, premier verset, Paul et Barnabas. 14, 6, Paul et Barnabas. Il y aura une seule exception, verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul. Et puis, chapitre 15, au verset 2, Paul et Barnabas. Avec une seule exception, à partir du verset 9, chapitre 13, on a basculé dans l'hierarchie. Avant le verset 9, Barnabas vient en premier. Il est nommé en premier dans l'équipe de 5 personnes au sein de l'église d'Antioche. Mais à partir du verset 9, c'est Saul et l'apôtre Paul qui prend la tête, qui prend la place du chef. Et tout ce que je voulais souligner par cela, c'est que Barnabas a accepté cela. Il a accepté cela. Il nous interpelle. Est-ce qu'on peut travailler en équipe? Est-ce que vous pouvez travailler en équipe? Est-ce que vous pouvez assumer la première place? Vous pouvez diriger. Et une fois après avoir dirigé, est-ce que vous pouvez accepter de vous éclipser et de servir? Est-ce que vous acceptez n'importe quelle place dans l'équipe? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ceux qui disent, je vais servir si on fait comme moi je veux. Je vais participer financièrement si on met en pratique mes idées à moi. Peut-être que ça n'arrive pas dans cette église-là. Mais il y a des chrétiens qui font comme s'ils prennent l'église en otage. Et parfois c'est financièrement, parfois c'est dans d'autres domaines. Mais si on a fait comme moi, alors je m'en vais, je claque la porte. Et c'est triste ça. Barnabas n'était pas comme ça. Il a accepté. On ne sait pas ce qui se passait dans son cœur. On ne sait pas comment il voyait donc que l'élève devenait plus grand que le maître. Mais il a accepté. Et sans doute, c'était grâce à ses prières même. Il priait pour son jeune protégé, Saul, devenu Paul, et devenu l'apôtre Paul. Et Paul va prendre la tête de l'entreprise, c'est-à-dire le projet missionnaire. Et en plein milieu, il va le faire. Je vais terminer avec le chapitre 15. On peut dire qu'un fils de consolation, c'est quelqu'un qui apaise, c'est quelqu'un qui cherche la paix, c'est quelqu'un qui réconforte, c'est quelqu'un qui est serviable. Et parfois, ça peut donner une idée qu'on est faible. Et ça risque de, ça risque que les autres pensent que vous êtes faible ou qu'ils vont profiter de vous. Peut-être que vous avez peur qu'on profite de vous. Mais dans le chapitre 15, on va voir qu'être fils de consolation, ça ne rime pas avec la faiblesse. Quelques hommes au chapitre 15, quelques hommes venus de la Judée, enseigner les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Et Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montaient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Oui, quelle est la base du salut? Est-ce que c'est la base des œuvres ou est-ce que c'est la base de la grâce? Est-ce qu'il faut que les chrétiens, ces nouveaux chrétiens, mettent en pratique la loi de Moïse, la circoncision et d'autres parties de la loi de Moïse pour être sauvés? Bien sûr, la réponse est non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais à l'époque, il y avait cette vive discussion et ce débat et cette opposition. Et ce que je voulais montrer, c'est que être fils de consolation ne veut pas dire faiblesse. On ne va pas céder, on ne va pas compromettre la vérité de l'Évangile simplement parce qu'on est fils de consolation. Ce n'est pas la paix à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas la paix ou la réconciliation à tout prix. Nous sommes tenus, Barnabas était tenu par la vérité. C'est la vérité qui compte. Et il s'est battu pour la vérité. Et cela veut dire qu'il faut un minimum de données, un minimum d'informations pour qu'on puisse reconnaître l'erreur quand ça se pointe. C'est-à-dire, on ne va pas laisser passer n'importe quoi. On ne va pas laisser les gens dire n'importe quoi. On ne va pas être complice avec l'erreur. Ça sous-entend qu'on va étudier la Bible, on va étudier ce qui se dit autour de nous, et on va être en mesure, on va être armé avec la parole de Dieu pour faire face. Et donc, on ne va pas dire, oh oui, chacun sa vérité. Non, c'est faux. On n'a pas le droit d'être plus tolérant que Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité, la vérité de Dieu. Et on le dit avec tout l'amour qui est dans notre cœur. Mais il faut le dire. Il ne faut pas laisser les gens penser que c'est à chacun d'inventer leur vérité à eux. Mais il faut les inviter à se soumettre à la vérité de Dieu. Et c'est ce que Paul et Barnabas devaient faire. Donc, peut-être c'était contre nature, peut-être il aimait la paix, il n'aimait pas la bagarre, ou enfin le débat, la discussion vive. Je n'aime pas trop non plus, je ne sais pas à quel point c'est. Mais à un moment donné, il faut quand même insister sur la vérité. Et là, on n'a pas le choix de reculer. Eh bien, c'est l'heure parce que nous allons passer à la table du Seigneur, mais ce n'est pas la seule fois. Enfin, on va voir Barnabas à la fin du chapitre 15. Il va se séparer de l'apôtre Paul sur la question de Jean-Marc. Est-ce qu'on prend Jean-Marc qui les avait abandonnés plus tôt? Est-ce qu'on lui donne une seconde chance? Est-ce qu'il y a un avenir pour Jean-Marc? C'est à la fin du chapitre 15. Et voilà, le fils de consolation, encore une fois, ose ne pas être d'accord avec l'apôtre Paul. Il dit, dans ce sens, il voit l'avenir de la personne et non pas son passé. C'est vrai, Jean-Marc les avait laissés tomber. C'est vrai, il a échoué sa première tentative de faire partie du voyage missionnaire. Mais Barnabas a vu la possibilité, un changement, et avec l'aide de Dieu, la transformation de Jean-Marc. Et il était prêt à donner à Jean-Marc une deuxième chance. Eh bien, il nous interpelle. Qu'est-ce que vous faites avec les moyens que Dieu vous a mis entre les mains? Les moyens financiers, les autres dons spirituels. Qu'est-ce que vous en faites? Il faut les partager avec l'Église. Pas uniquement le dimanche matin. L'Église existe pendant toute la semaine, n'est-ce pas? Mais il faut servir. Il faut servir le Seigneur. Situation bloquée? Peut-être Dieu va se servir de vous. C'est vrai, c'est difficile de s'immiscer dans les affaires des autres. Mais s'il s'agit de l'Église, s'agissant de l'Église, Dieu a déjà fait que ce soit votre affaire, parce que c'est votre Église. Et il ne faut pas qu'il y ait des situations bloquées au sein de l'Église. Et votre attitude par rapport à l'autorité, vous pouvez servir en tant que chef, vous pouvez servir en tant que petit soldat. On n'est pas obligé de faire exactement ce que vous voulez, c'est bien. Hein? Donc, l'œuvre du Seigneur va avancer. De constater votre don spirituel, de le mettre en pratique, d'encourager les autres, d'être plein de l'Esprit Saint, et finalement d'accorder une deuxième chance à ceux qui vous ont déçu. C'est pas si quelqu'un vous a déçu ici. Peut-être c'est le pasteur Farrell. Vous allez m'accorder une deuxième chance, n'est-ce pas? Et aux autres aussi. Eh bien, je crois que Barnabas nous a interpellés. Et là où on peut, on va calquer notre vie sur lui. Bien sûr, c'est Jésus qui est notre vrai modèle. C'est lui qui est notre exemple, Jésus. De par son amour, de par sa soumission au Père, et toutes les qualités étaient finalement sans mélange. Jésus aimait avec 100% d'amour. Barnabas aimait, mais à sa façon. Ce matin, nous allons dire au Seigneur que nous l'aimons. Nous allons obéir à un de ses commandements. C'est lui qui nous invite à nous mettre